France Musique.
Moi, je suis ici. Écoutez. Et bougez pas.
Allô, monsieur Isaac Stern. Une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil. Réalisation Christine Amado.
Bonjour à tous. Deuxième épisode de notre saga Allô, monsieur Isaac Stern. Nous l'avons laissé hier prêt à donner un concert. En ce mois de février 35, il est soutenu par son professeur Naum Blinder et c'est ensemble qu'ils vont interpréter le concerto pour deux violons de Bach au Veterans Auditorium de San Francisco.
J'avais 14 ans. Et je me rappelle que j'ai joué un programme, j'ai joué un concerto de Ernst, qui a beaucoup de notes, c'est comme Paganini, que je n'osais jamais jouer aujourd'hui, beaucoup trop de notes. Et il y avait des autres choses aussi, le concerto accompagné par piano, pas par l'orchestre, pour deux violons de Bach, le double de Bach, que mon professeur Naum Blinder a joué avec moi pour m'encourager. C'était mon premier concert, vraiment.
Vous avez dû avoir peur.
Ça vient avec l'âge. Oui. Maintenant, ça, c'est vraiment avoir courage, c'est savoir peur et continuer. Parce qu'avoir peur et être vraiment conscient des difficultés, les désastres qui peuvent arriver, et malgré tout, continuer, ça c'est courage.
Thank you. de rien, c'est vrai. Il se produit ensuite pour la première fois avec l'orchestre de San Francisco au Civic Auditorium, la salle des congrès d'environ 4000 personnes. Il y donne le concerto numéro 3 en si mineur de Saint-Saëns. L'orchestre est dirigé par Willem Vandenberg, alors chef adjoint et premier violoncelliste. Le critique du San Francisco Chronicle, Alfred Frankenstein, écrit « Il n'y a plus rien de l'enfant prodige dans son jeu. Ce n'est pas ce concert, somme toute, passé inaperçu, qui va le lancer. »
Mais le vrai début était dans la saison qui commençait quelques mois après, avec Monteux dans le concerto de Brahms, qui était diffusé par la radio dans toute l'Amérique. C'était la première fois que les gens commençaient à prendre mon nom.
Quel âge aviez-vous ?
J'avais juste avant mon 15e anniversaire. Alors j'avais 14 ans.
C'est un peu jeune pour le concerto de Brahms.
Pour moi, c'était tout à fait naturel. J'aime la musique de Brahms peut-être pas plus que les autres œuvres, mais je suis à l'aise avec les symphonies, avec les quatuors, avec les trios, avec les sonates, avec les concertos, avec les deux concerts pour piano et orchestre.
Oh oh, Isaac, vous laissez planer le doute sur votre âge. Lorsque vous donnez ce concert avec Pierre Monteux, vous avez en réalité 16 ans, puisque ce concert a eu lieu en mars 37. Malheureusement, nous n'avons pas retrouvé cet enregistrement. Voici celui qu'il a réalisé avec Sir Thomas Beecham et le Royal Philharmonic de Londres. Même à 16 ans, quelle expérience tout de même que d'avoir Pierre Monteux face à lui sur scène. D'un côté, Isaac se trouve en terrain ami, puisque Monteux et Blinder sont proches. Le chef a 62 ans, petit, rondelet, moustachu, d'une jovialité toute provençale. C'est un Français d'origine marseillaise. Sa direction lui ressemble, une gestique simple, directe, sans esbroufe, d'une tranquille autorité. Mais tout de même, d'un autre côté, il y a de quoi rester muet d'admiration. C'est Pierre Monteux qui dirige les premières de Daphnis et Chloé de Ravel et Jeux de Debussy. Mais surtout, le 29 mai 1913, au Théâtre des Champs-Élysées, c'est la fameuse création du Sacre du Printemps. Il a dirigé également à Boston le concert Gebau et il a pris la direction de l'orchestre de San Francisco en 1935.
Et c'était grâce à lui aussi que j'avais commencé à jouer les autres concerts. Il était vraiment un ami pour toute sa vie. L'an qu'il est mort, c'était, je pense, 73. Et il devrait avoir son 85e anniversaire, le 4 avril. Il m'a demandé de jouer son dernier concert parce que nous avons commencé
Il se rappelait que j'avais commencé ma carrière avec lui à San Francisco. Il m'a demandé de jouer le dernier concert avec lui à Londres, et malgré... C'est dommage. Il est mort. C'était à peu près un mois avant. Mais c'était un ami depuis, comme j'avais dit, depuis 1935. Nous avons joué plusieurs fois à San Francisco, à Tanglewood avec le Symphony Boston, à Chicago, en Europe. Nous avons joué au Festival d'Édimbourg. Mm-hmm. Et il est resté toujours un ami, un homme qui m'a aidé énormément. Et j'ai appris beaucoup. Lui, parce que c'était vraiment un grand maître.
Se montrera effectivement exemplaire pour Isaac après le concert, car il ne laisse pas tomber le jeune prodige. Il écrit le 7 avril 37 à Vladimir Golsham, alors à la tête de l'orchestre de Saint-Louis. En vous écrivant cette lettre, je fais quelque chose qui n'est pas dans mes habitudes. Comme vous le savez, j'ai ressenti une émotion tellement intense et profonde la semaine dernière que je considère comme mon devoir de musicien de faire ce que je m'apprête à faire. Un garçon de 17 ans, de San Francisco, nommé Isaac Stern, vient de jouer le concerto de Brahms avec moi au cours de mes deux derniers concerts. Et j'affirme, sans la moindre hésitation, qu'il est l'un des premiers grands violonistes d'aujourd'hui. En fait, s'il me rappelle beaucoup Kreisler lorsqu'il était jeune, vous me feriez une grande faveur et vous auriez un immense plaisir à prendre ce garçon avec vous la saison prochaine. Ce n'est pas un prodige, mais toute sa formation musicale a été si intelligente qu'il est devenu, pourrait-on presque dire, un violoniste de l'ancienne école européenne. Je suis absolument sûre qu'il fera sensation partout où il jouera, et depuis que la National Broadcasting a diffusé son concert, nous avons déjà reçu des centaines de télégrammes et de lettres. Suivante, Isaac se rend à Los Angeles pour y jouer le concerto de Tchaïkovski sous la direction d'Otto Klemperer. Isaac n'évoque jamais ce concert qui ne s'est peut-être pas si bien passé. En 1936, Klemperer, le disciple de Gustav Mahler, vient de quitter l'Allemagne, non sans amertume, et de prendre la direction de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Bien qu'il n'ait pas encore livré tous ses grands enregistrements et n'a pas encore la notoriété qu'on lui connaît aujourd'hui, on sait qu'il était particulièrement cassant et intimidant. Mais tout de même, commencer par Monteux et Klemperer, cela n'est pas donné à tous les jeunes violonistes. Grâce à ce concert, Isaac a la chance de se lancer dans sa première tournée dans le nord-ouest de la côte pacifique, à Vancouver, en Colombie-Britannique et dans l'état de Washington. Sa mère l'accompagne comme un enfant, mais le métier rentre. Ainsi se rappelle-t-il. À l'été 1937, j'ai joué le concerto pour violon de Saint-Saëns à ce qu'on appelait alors les Concerts Rose Bowl à Portland, en Oregon. Le chef d'orchestre était Basil Cameron. Avant le concert, il m'a soigneusement demandé de faire quelque chose de spécial sur scène. À la fin du deuxième mouvement, lorsque l'orchestre jouerait plic, 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 puis la harpe, piap, 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 et je jouerais les harmoniques, pap, 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 avec la flûte, tous très délicats. Basil Cameron m'a dit, « Tu sais, Isaac, laisse-moi te dire comment réussir aujourd'hui et dans tes années futures. Quand tu arriveras dans cette partie, regarde vers le ciel, comme si tu jouais avec les anges, et tout le public applaudira. Je ne me souviens pas si j'ai levé les yeux correctement, mais je me souviens de ses conseils. » « 17 ans. Maintenant, l'idée de jouer à New York est un rêve qu'il faudrait réaliser. Le projet n'est évidemment pas de conquérir Carnegie Hall, mais une salle plus modeste, 1500 places tout de même au Town Hall. Mais il y a un hic, le violon d'Isaac. Pour le moment, il se débrouille avec son instrument d'étude qui n'est pas adapté au concert. Et devinez qui va venir à sa rescousse ? Eh bien, c'est encore la magnifique Lucy Goldstein. Elle achète un Giovanni Battista Guadagnini pour 6 500 $ qu'elle offre à Isaac. Il y avait un sentiment de destin dans ce voyage, surtout de la part de mes parents. Depuis l'âge de 10 ans, ils ont façonné leur vie en fonction des besoins de leur prodige et ils espéraient de tout leur cœur mon succès. Menuhin était alors mondialement connu, il n'avait que 4 ans de plus que moi. Deux autres prodiges étaient sortis de San Francisco, la pianiste Ruth Slezinska et le violoniste Ruggero Ricci. Tout San Francisco m'a vu comme un talent aussi magique. Des amis de l'orchestre m'ont accompagné sur le ferry pour me voir partir. New York, la ville de tous les espoirs, la ville à conquérir. On imagine bien notre jeune Isaac, un peu crâneur pour se donner du courage. Il doit y croire, créer l'événement, au moins pour remercier ses parents si dévoués, si dépendants de lui et si certains de son avenir. Les habitants de San Francisco ont écrit des lettres à leurs amis de New York, leur demandant d'assister au concert. Des critiques ont été appelées et cajolées pour y assister aussi, et de nombreux billets gratuits ont été distribués pour créer un public. La salle n'était en aucun cas pleine pourtant. Je portais un costume sombre, une chemise blanche et une cravate noire. Je me souviens très peu des heures précédant le concert. mon accompagnateur était Arpad Sandor. Nous avons répété et j'ai joué le concert. Bach, Wieniawski, Tartini, Novacek, Glazunov, Szymanowski. Un énorme programme. Un de mes amis a dit plus tard, Isaac, qu'essayais-tu de faire ? Jouer tout le répertoire de violon en un seul concert ? Je n'ai pas de mémoire claire du public. J'ai probablement fait alors ce que j'ai toujours fait. Jouer du violon et de temps en temps jeter un coup d'œil au public. Une fois qu'il est devenu fixe dans mon esprit, je peux fermer les yeux et simplement jouer parce que je sais qu'il est là et qu'il écoute. J'ai toujours dû avoir une vision des visages autour de moi quand je joue. Les yeux, les applaudissements le submergent. Après le concert, une foule d'amis vient le saluer et l'embrasser dans les coulisses. Il a tout donné. Il a fait au mieux. Il a certainement réussi à charmer New York. Il en est sûr. Il le sent. Plus tard, nous sommes sortis pour aller dîner. Il y avait un excellent restaurant au coin de la rue qui servait une choucroute allemande et de la bière. « J'avais besoin de manger », précise-t-il. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'imagine bien l'estomac dans les talons, se jetant sur sa choucroute après toutes ses émotions. Couchez tard, levez tôt, car les journaux sont publiés aux aurores. Isaac fonce au kiosque. Il achète toute la presse et remonte à la chambre d'hôtel 4 à 4. Et là, catastrophe. Clara Stern et Isaac sont amèrement déçus. Les critiques sont sévères. Une technique pas vraiment transcendante, des souillures techniques, une compréhension plutôt originale de la structure des œuvres. Le New York Times a tout de même salué l'étendue de sa technique et son jeu fougueux et direct, mais n'aime pas son vibrato. Il y a des journalistes vraiment injustes. Ce qu'on reproche à Isaac, d'être originaire de San Francisco, de Californie, cette terre lointaine où abondent les prodiges du violon, ou encore, les violonistes sont aussi répandus en Californie que les oranges. Isaac reçoit une véritable gifle. « J'étais le grand espoir du monde de la musique de San Francisco, » dit-il. « Tout m'était venu si facilement jusque-là. J'avais été tellement loué pour mon jeu que j'avais pris pour acquis que le concert de Town Hall serait dans la suite de mes succès. » Isaac ne serait pas à la hauteur, a asséné la presse, mais trois orchestres semblent penser qu'il aurait tout à fait sa place dans leur rang. De quoi assurer à ses parents la vie qu'ils méritent. C'est tentant, c'est consolateur, c'est sécurisant, oui. Mais c'est aussi renoncer à tous ses rêves. Pour la première fois, Isaac doute de lui-même.
C'était en 1937. Quand j'avais joué la première fois à New York, dans une petite salle Town Hall, pas Carnegie. Et j'étais reçu pas mal, oui, encore, très, beaucoup de talent, je dois travailler, etc., etc. Et comme on n'a pas eu beaucoup d'argent, c'était difficile, la vie était difficile. Et dans ce temps-là, à New York, on a eu trois grands orchestres sur les grandes chaînes de la radio. Et j'avais 17 ans et on m'a offert devenir premier violon dans un des orchestres. À ce temps-là, c'était une fortune pour moi, vraiment une fortune. Et je me suis demandé, les jours après les concerts, j'ai pris un autobus et je suis voyagé pour 5-6 heures sur cet autobus, le long de Manhattan. En haut, en bas, en haut, en bas. Est-ce que je continue à essayer de devenir soliste ou est-ce que je prends cette possibilité de vraiment gagner la vie, aider ma famille finalement, la famille qui m'a aidé toute leur vie et ils ont tout offert à moi et on a fait tout le possible pour moi.
Pendant qu'il broie du noir traversant New York du nord au sud sur la ligne de bus Washington Square à Washington 8, sa mère téléphone partout, au bureau des concerts, à ses maigres connaissances à New York pour savoir où il est. Elle envisage la police quand il revient avec une décision.
Et finalement, après 5, 6, 7 heures de pensées, des questions, je me suis dit non. Je vais continuer à essayer.
Et dans son livre, Isaac précise « Je me donnerai encore 2 ans. Je retournerai à San Francisco pour m'entraîner encore et jouer. Et je retournerai à Town Hall pour une deuxième chance. » De retour à San Francisco, la mauvaise presse n'a pas suivi. On célèbre au contraire le magnifique succès du jeune Stern. Pourtant, Isaac est meurtri. Heureusement, son optimisme viscéral reprend le pas, et cet échec n'est pas plus qu'une leçon. Celui qui a répété à l'envi qu'il n'était pas un enfant prodige a désormais un nouveau credo. Le talent ne s'improvise pas, il se mérite.
On ne pense pas comme ça. On ne prend pas le temps pour penser « Ah, est-ce que j'avais fait ou non, j'avais fait pas, ou c'était arrivé mieux ou pas si bon ?» On peut pas, on est toujours pris par ce qu'on n'a pas encore fini.
Oui.
Et c'est ça qui donne la force à continuer, surtout. Parce que si vous pensez qu'il y a
des niveaux à réaliser et que vous les réalisez, quoi faire après? Alors, avec chaque étape, il y a quelque chose, il y a une autre vue. On voit ce qu'on pourrait pas voir avant parce qu'on n'a pas assez essayé, on n'a pas assez travaillé, on n'a pas assez subi. Alors on doit vivre et continuer ce mélange des pensées, des efforts et voir ce qui est encore possible à faire. Il y a toujours ça, et parce que sans ça, pour moi, la vie est finie.
Je me suis mise à travailler comme un fou. J'étais totalement obsédée. Naum Blinder est là, mais n'oubliez pas qu'il est celui, je cite, « qui m'a appris à apprendre par moi-même, ce qui est la chose la plus importante qu'un enseignant puisse vous apprendre. » C'est donc surtout seul qu'Isaac décide de remédier à ses failles. Il doit travailler sa technique, travailler jusqu'à ce que tout ce qui est physique deviennent automatiques. Comme je n'avais pas reçu cette formation de Naum Blinder ou de l'un des professeurs qui l'avait précédé, j'ai dû apprendre certaines de ses bases par moi-même. J'ai eu la chance d'avoir une facilité naturelle pour l'instrument et une bonne oreille pour les harmonies sous-jacentes de tout ce que je jouais, que ce soit une pièce virtuose rapide ou une mélodie lente et belle. J'ai appris à penser une nouvelle œuvre et à m'entraîner en la pratiquant pour compenser les difficultés physiques et ainsi trouver des moyens de rendre la musique simple et apparemment inéluctable. Il résume très bien son objectif. J'ai appris à mes mains et à mes doigts à comprendre ce qu'ils faisaient et à reconnaître ce qu'ils éprouvaient ainsi, à sentir où ils allaient et à ressentir que le but était atteint. Humilité avant tout. Les critiques lui ont fait honte à propos d'une autre faiblesse, la concentration. Sa méthode démontre son obstination. Il décide d'apprendre en 3 heures ce qui, avant, aurait demandé 12 heures. Lors d'une interview, Isaac donne des conseils au jeune violoniste. Derrière ces mots, on entend clairement comment il s'y est pris lui-même. Apprenez ce que le violon peut exprimer en tant que voix. Apprenez à respirer. N'écoutez pas les disques de violon, écoutez de grands chanteurs. Écoutez de grandes symphonies, de grands quatuors. Écoutez tous les grands chefs d'orchestre du passé. Apprenez les partitions d'opéra et apprenez à les lire et découvrez comment les opéras sont assemblés. Écoutez ce que font les plus grands chanteurs de Lieder, comment ils respirent. Apprenez ce que signifie pour une flûte ou un hautbois ou un cor de respirer avant de jouer de l'instrument, puis de respirer pendant que vous jouez. Thank you. Autre faille, son style. Aucun critique n'a décelé un style brillant, un timbre naturel qui n'aurait appartenu qu'à lui. Alors, il doit travailler les œuvres plus en profondeur pour trouver son swing, dit-il. Quant à son répertoire, puisque maintenant il a cerné ses difficultés, eh bien ce sera son point fort, à l'inverse des fameux enfants prodiges. Il décide de refuser le côté tapageur de la virtuosité. Pas de Paganini survolté. Là encore, une interview nous aide à comprendre ce qu'il a travaillé. Isaac Stern relate une conversation qu'il a eue avec le pédagogue Ivan Galanian.
Je lui ai dit, mais écoute Ivan, c'est nécessaire que toi, tu dois commencer avec eux, pas seulement avec Wieniawski, Paganini et Sarasate, mais avec les sonates de Mozart, les quatuors de Brahms. Il m'a dit, mais ils auront assez de temps le faire après. Premièrement, ils doivent jouer le violon. C'est la seule chose, nous n'étions pas d'accord, parce que si vous prenez un jeune, un très jeune, même avec un grand talent, et vous forcez à un certain âge, entre, disons, entre 8 ou 10 ans et 16 ans, seulement de travailler littérature virtuose, vous pouvez jamais récupérer cette manière d'essayer de trouver qu'est-ce que ça veut dire la musique et pourquoi on doit utiliser un vibrato différemment avec chaque note, avec chaque mouvement, avec chaque compositeur. La seule chose avec Galamian, c'est presque tous ses élèves ont utilisé le même vibrato. Et les vibrato qui étaient sans cesse. Et c'est seulement ceux qui ont eu le temps d'essayer de trouver un moyen, une route personnelle, qui ont commencé vraiment à utiliser le violon pour jouer la musique, pas la musique pour jouer le violon.
Thank you. Isaac a désormais un agent du nom de Paul Stoes, qui a un bureau à New York. Gros buveur, fumeur de cigares. Il manage les petits chanteurs de Vienne et les chœurs de cosaques constitués d'officiers russes réfugiés. Contacte des chefs d'orchestre et donne son répertoire. Il n'obtient évidemment que des petits cachets pour des concerts qui font à peine trois lignes dans la gazette locale. Le jeune homme voyage en train, troisième classe, et apprend à se déshabiller dans une couchette en hauteur avec son violon pour oreiller. Le Guadagnini de Lottie Goldstein qu'il ne quitte jamais. Parfois, il doit se contenter d'un autocar, voire même c'est Stoes qui l'emmène dans son énorme buick. Les chambres d'hôtel ne doivent pas dépasser 2 dollars la nuit. Bon, l'année 38-39, Isaac ne compte pas vraiment beaucoup de concerts dignes de ce nom. Stoes va faire un joli cadeau à Isaac. Il va lui faire connaître Fritz Kreisler. Ils vont l'écouter en concert. Isaac a remarqué la bienveillance de Kreisler envers son public et la réponse enthousiaste de celui-ci. Après les félicitations, quand les trois hommes sortent par l'entrée des artistes, Isaac s'émerveille de voir le public les suivre en applaudissant. Il n'en revient pas devant ce musicien hors norme, grand gastronome qui ce soir-là a commandé du homard, une soupe de tortue et de très bon vin. Isaac Stern admire le son de Kreisler, qu'il dit « doré comme du miel ». En retour, Kreisler, lorsqu'il entend le jeune violoniste, l'encourage. Cette gentillesse, cette chaleur, cette gourmandise, cette disponibilité à son public. Je crois que Kreisler a tendu un miroir au futur grand Isaac Stern. Il faut dire que le jeune violoniste a quelques prédispositions pour attirer l'amitié, la sympathie et l'amour de son public. Évidemment, pour rien au monde, Isaac ne raterait les concerts des autres violonistes. Il avoue avoir entendu Yehudi Menuhin à ses débuts. Mais surtout, l'autre monstre sacré, Yasha Heifetz. Il appartient à tous les temps. Il n'y a eu aucun joueur de violon d'instruments à cordes au cours des 50 ou 60 dernières années qui n'ait été affecté d'une manière ou d'une autre par sa façon de jouer, avoue Isaac. Heifetz, si dur à la tâche, a effectivement pu être un modèle pour le jeune Isaac qui pourtant n'a jamais été son étudiant. Heifetz, ce musicien qui affirmait qu'un artiste devait avoir les nerfs d'un torero, la vitalité d'une hôtesse de boîte de nuit et la concentration d'un moine bouddhiste. Un fou de travail. Lui qui avait commencé le violon à 3 ans, joué à 10 devant 25 000 personnes, est probablement celui qui a ouvert la voie à toute la génération des Milstein, Oistrakh, Menuhin et Stern.
Heifetz était le plus grand violoniste du XXe siècle, sans doute. Il a influencé la manière de jouer pour chaque violoniste qui la suit. Il avait une force, un contrôle du muscle et des idées qui était incomparable. Je l'ai connu moi-même. Entendu plusieurs fois dans les concerts. Et sans penser pourquoi, j'ai trouvé un peu plus tard que j'ai décidé, sans discuter même avec moi-même, que je ne pourrais jamais toucher la manière comme il a joué des grandes œuvres comme Scottish Fantasy de Bourg ou de Vieuxton 4 ou 5. Et même la nobilité avec qui a joué le Beethoven, avec Toscanini, mais c'était Toscanini qui a donné beaucoup dans ce cas-là.
Deux ans sont passés, deux ans d'impatience, d'obstination à relever le défi. Février 1939, Stoes organise le deuxième concert à Town Hall, non sans l'aide encore une fois de Luti Goldstein pour couvrir les frais et Isaac y ajoutera aussi toutes ses économies. Le concert a lieu le samedi après-midi. Isaac a un nouveau programme. Le pianiste est cette fois Wolfgang Rebner, de quoi rassurer Isaac. Rebner, qui vient de se réfugier en Amérique, est un ami de Schoenberg et l'habituel accompagnateur du violoncelliste Emmanuel Feuermann. Rebelote, Isaac regarde son public droit dans les yeux, ferme les paupières et se lance. Rebelote, des applaudissements dithyrambiques. Dans les coulisses ruisselant après l'effort, il est étouffé d'embrassades par tous ses amis, la famille et les invités. Puis le même restaurant, la même choucroute, la même bière. Et Rebelote réveille à l'aube pour aller chercher les journaux. Mais cette fois, les critiques sont positives. Le Times. Violoniste doté d'une bonne technique, avec une sonorité ronde et voluptueuse, une merveilleuse maîtrise de l'archet. Herald Tribune. Monsieur Stern devrait faire partie des violonistes les plus importants de notre époque.
L'année prochaine, en 38, j'ai joué encore un concert à Town Hall. C'était avec un grand succès. À mon avis, j'ai pas joué si bien comme l'année avant. Mais en tout cas, c'était très, très bien reçu et la carrière a commencé un tout petit peu.
Allô, monsieur Isaac Stern, Emmanuel Franc, France Musique.
Rub-a-dub-a-dub in her little tub, all those tunes she found. The little thimbles on her fingers made the noise. She played Charleston on the laundry for the boys. She could rag a tune right through the knees of a brand new suit of easy breezes. Coney Island, washboard round the lane.
Grâce à ce concert, Isaac fait une rencontre décisive avec un agent qui ne ressemble à aucun autre. Une légende absolue qui va lui mettre le pied à l'étrier, certes prudemment au début. Il s'agit de Sol Harrock. Il a eu une vie si aventureuse et si brillante qu'elle a été racontée dans un film réalisé par Mitchell Leisen en 1953, Tonight We Sing, du grand technicolor hollywoodien. Voilà l'histoire. Au tout début du siècle, un jeune émigré juif russe à New York, pauvre comme Job, est un amoureux fou de la musique. Comme il n'a aucun talent, il se consacre à l'organisation des concerts des autres et rêve de monter des tournées pour une Pavlova condamnée à danser dans un cirque ou un Tchaliapine méprisé par la critique américaine. Aucun ne fait confiance à ce pauvre air. Harrock est désespéré quand, soudain, il reçoit, à sa grande surprise, une invitation de Tchaliapine à Paris. Il se ruine pour y aller. En vain, Tchaliapine, personnage gargantuesque et indélicat, ne signe aucun contrat avec le jeune Sol Harrock et le renvoie à bredouille les poches vides aux États-Unis. Évidemment, plus tard, Tchaliapine et Pavlova viendront manger dans la main de Sol. Mais pour l'heure, désespéré, il est condamné à voyager clandestinement à bord d'un paquebot. Il s'est fait un ami, un steward et chanteur, Lawrence. Celui-ci annonce à Sol qu'un grand violoniste va donner un concert dans les salons du navire de luxe. Et alors, qu'il jouerait en haut de la tour Eiffel ne changerait pas la donne, lui répond Harrock. Lawrence cherche à le convaincre. Mais si, il lui a même volé un habit à la blanchisserie pour qu'il puisse y aller. Le concert est donné par un certain Eugène Isaïe. Joué par... Mais oui, nous y voilà. Joué par Isaac Stern.
Excuse me, Mr. Isaïe.
Yes. Aren't you playing tonight? Yes, I'm playing, but I'm not dressing. My evening clothes have disappeared.
Oh. Isaïe, donc Isaac Stern, est appuyé au bastingage.
I suppose I can play just as badly in a tweed coat. Without evening clothes, it's like going to a wedding in a.
Il a un problème. Il n'a pas d'habit de concert. Ce dernier a disparu, comme par hasard. Isaïe précise qu'il joue aussi mal en frac qu'en tweed. C'est pas grave. Mais Sol lui propose l'habit qu'il a sur le dos parce qu'il est trop grand. Nous sommes maintenant dans la cabine d'Isaïe, qui a mis l'habit et a bien compris que c'était le sien. Vous avez perdu du poids récemment, et quelle coïncidence, vous avez les mêmes médailles que les miennes, remarque-t-il. Quand le jeune Harrock veut s'en aller en s'excusant, Isaïe le retient avec chaleur. Moi aussi, à l'âge des culottes courtes, j'ai volé les pantalons de mon père pour aller au concert. Nous avons beaucoup de choses en commun, vous savez.
Come in.
Excuse me, sir. I just dropped by to see if you wanted to rehearse before the concert.
L'accompagnateur d'Isaïe arrive pour répéter avec le maestro et celui-ci demande à Sol ce qu'il veut entendre. Il souhaite son air préféré, l'air bohémien de Sarrasate.
And now, Mr. Harrock, what would you like to hear me play?
Something of Sarrasate's, perhaps?
Zigeunerweisen?
One of my favorites.
Good. It's getting a bit late. We only have a few minutes before the concert. We can play a little of it now. Please sit down.
À la fin de la répétition, Isaïe invite le jeune Sol Hurak au concert. Puis, ils dîneront ensemble.
Oh, that shall happen. What the chase he led me. First to America, then to Europe again. Still, I'm grateful. If it hadn't been for him, I might not have come to America.
Sol raconte au violoniste ses déboires avec ce goujat de Tchaliapin.
I'm not the one to tell you this, but in a little out-of-the-way settlement house, I put on some concerts. Not with great artists, but with talented students. You should see that audience. What a love of beauty. What respect for the artist.
I've played but little in America.
Il expose son projet d'agence artistique démocratique et invite Isaïe à comprendre le public américain. Il lui suggère de donner des concerts dans les hippodromes plutôt qu'à Carnegie Hall.
L'hippodrome est tremendous. You'd attract a giant audience. And then for advertising.
Il y rencontrerait des vrais amoureux de la musique, qui ne sont pas des snobs, qui ne viennent pas pour montrer leurs beaux habits. Et ils sont pauvres, mais sincères, et surtout, ils sont des millions. Le public de Hurak, résume Isaïe, en leur servant une rasade de cognac et en fumant un gros cigare, et avant d'ajouter « Banco, je prends le risque ». Voilà qui était Sol Hurak dans le film, comme dans la vie. Il est effectivement devenu l'impresario le plus recherché. En 1913, il crée l'agence Music for Masses qui organise des concerts populaires. Sol était un socialiste de salon, disait Isaac. Peut-être, mais le sympathisant de l'Union soviétique a fait, il est vrai, venir des orchestres, des compagnies de ballet et des artistes russes. Il a aussi créé des événements pour le plus large public possible. Dans le désordre, il fut l'agent d'Isadora Duncan, Margot Fontaine, Émile Gilels, Arturo Benedetti Michelangeli, David Oistrakh, Sviatoslav Richter, Mislav Rostropovitch, Barenboim et tant d'autres, parmi eux, mon grand amour, Arthur Rubinstein. Isaac Stern, dans son autobiographie, fait de son agent un portrait cocasse en imitant le fort accent yiddish d'un homme qui porte beau. Chapeau mou, incliné sur le côté du crâne, manteau à col de fourrure et canne, évidemment à pommeau d'argent. Mais Isaac, lui, sait gré de son goût du risque. Il a avancé de l'argent sur ses propres fonds pour aider de jeunes artistes en qui il croyait. Il leur faisait signer un contrat de 2 ans qu'il dénonçait si ça ne marchait pas. Un très bon agent, mais redoutable en affaires. Figure paternelle, Hurak a conduit Isaac Stern pas à pas vers le succès et restera son agent à vie. Grâce à Her Rock, Isaac doit faire des tournées qui l'emmènent à un train d'enfer dans les villes les plus reculées des États-Unis. Humble, il le fait de bon cœur, se créant ainsi un réseau d'amis qui ne cesseront de le réclamer. Au fil du temps, Sol, malin comme pas deux, accepte de planifier Arthur Rubinstein et Marian Anderson, deux de ses poulains, dans des grandes salles à condition que ses organisateurs de concerts signent aussi avec Isaac Stern. Et celui-ci doit désormais travailler ses programmes plus que jamais. J'ai pratiqué jour et nuit. J'ai eu un apprentissage difficile et durcissant. Cela m'a appris la valeur des valeurs. Isaac part en tournée avec un pianiste russe, Léopold Mitman, ami d'un autre pianiste russe, Alexander Zakin.
Zakin est arrivé en Amérique en 1940. Il était né en Sibérie et puis a commencé ses études en Russie. Il a continué ses études à Berlin. Et marquez-vous qu'il y avait une période à Berlin entre 1920 et 1930, que la plupart des musiciens du monde entier, tous les premiers violons, tous les pianistes, tous les violoncellistes, tous les quatuors, étaient vraiment formés un tout petit peu en Allemagne, à Hochschule, pour faire la musique à ce temps-là. Et il y avait des musiciens dans tous les orchestres, dans tous les pays, dans le monde entier, qui ont étudié à ce temps-là, entre 1920 et 1930. C'était là qu'il a rencontré Milstein et Piatigorsky. Et il a étudié avec Egon Petri. C'était son professeur. Et il a commencé à faire de la musique à Berlin, aussi la musique pour quatre pianos et des autres choses. Mais quand la politique a commencé à se changer, il a quitté, pas très long avant l'arrivée des nazis, il a quitté l'Allemagne pour Luxembourg, où il est devenu le chef des chœurs, le pianiste de la radio, l'assistant. Il a tout fait à Luxembourg et a quitté Luxembourg deux semaines avant l'arrivée des Allemands. Il est arrivé à New York et nous avons des amis en commun. Il y avait un pianiste qui a joué avec moi, qui a décidé qu'il pourrait mieux faire continuer, pas avec moi, mais avec Michel Hellman. Alors il m'a introduit à Zakin. Et c'est comment Zakin et moi, nous avons commencé à travailler ensemble. La première année, on a joué, je pense, 7 concerts ensemble. Le deuxième, 14. Le troisième, c'était 25. Et après ça, il était toujours avec moi. Il était avec moi 33 ans. Et malgré que nous étions ensemble tout le temps, jour et nuit, plus qu'avec nos femmes, nous avons resté de très bons amis.
Qu'ajouter à cela ? Zakin, dit Shura, est un formidable pianiste, mais pas un soliste. Certes, il accompagnera Isaac sur scène, mais plus que cela, il va devenir son indispensable grand frère, dans la vie comme dans la musique. Nous allons souvent parler de Shura, tant son rôle auprès d'Isaac est essentiel. Mais notons bien que ces années 39-40, Isaac a fait les deux rencontres les plus importantes de sa carrière, Zakin et Herrock. Sans eux, Isaac serait-il devenu l'immense violoniste que nous aimons ? Thank you. Pour la saison 40-41, Isaac entame sa troisième tournée nationale avec 30 engagements, mais sa carrière n'est pas assise tant qu'il n'a pas donné de concert à Carnegie Hall. C'est son but, désormais. Isaac a 20-21 ans. Il vit à New York, sur Central Park. Confié sans doute par Clara à un couple de commerçants, turfistes et mélomanes. Mais le cocon est un peu trop protecteur au goût du jeune homme qui souhaitait s'émanciper. Lui qui avait toujours été accompagné par ses parents, hors sol, détaché de toute réalité, avait envie d'avoir les pieds sur terre maintenant. D'être un jeune homme comme les autres. Il va alors vivre avec un copain physicien, doublé d'un fou de musique de chambre, Al Goldsmith. Ils habitent un grand appartement au 30e étage d'un building, 72e rue. Dans le salon, ils construisent une scène et y installent un piano. Isaac travaille seul la journée. Et le soir, les copains des musiciens des orchestres de radio arrivent. Tous jouent alors en quatuor ou sextuor, selon le nombre. Puis c'est la fête. On vide le frigidaire et on palabre jusqu'à tard dans la nuit. Si la folie du téléphone est déjà bien ancrée dans ses habitudes, moi j'imagine le jeune Isaac traîné d'une cabine téléphonique à l'autre pour réunir ses amis et pourquoi pas faire quelques canulars téléphoniques à la façon de Bogart et Bacall.
Hello, police headquarters, please. Hello, this is Mrs.
Hello, what do you want, please? What? I called you. Oh, you're the police. Oh, he's the police. Oh, well, that's different. What can I do for you? I can do what? Where? Oh, no, I wouldn't like that. Neither would my daughter.
Al Goldsmith n'est pas en reste. Il croit en Isaac comme personne. Alors, il va jusqu'à le réveiller à 4 heures du matin et l'obliger à jouer à peine éveillé. Pourquoi ? Si tu parviens à jouer dans ces conditions, tu ne seras pas troublé par Carnegie Hall, lui répond-il.
My mommy told me if I was goody that she would buy me a wobble dolly. So don't you tell her I kissed a fella or she won't buy me that wobble dolly.
Si l'ambiance de colocation est charmante, il s'agit aussi pour le jeune Isaac de conjurer l'angoisse. Une grande partie de la famille Stern est restée en Ukraine. Ses parents, Salomon et Clara, n'ont aucune nouvelle d'eux. Le 7 décembre 41, Isaac est chez lui. Il écoute le concert dominical. Rodzinski dirige l'orchestre philharmonique de New York dans la première symphonie de Shostakovich et le deuxième concerto de Brahms avec Arthur Rubinstein lorsque la diffusion est interrompue par l'annonce de l'attaque de Pearl Harbor.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu.
Lors de l'entrée en guerre des États-Unis, le discours de Roosevelt au Congrès l'émeut profondément. J'entends encore le son de sa voix, la façon d'exprimer sa tristesse et sa colère, dit Isaac.
I regret to tell you that very many American lives have been lost. As commander-in-chief of the Army and Navy, I have directed that all measures be taken for our defense, but always will our whole nation remember the character of the onslaught against us, no matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion. The American people in their righteous might will win through to absolute victory.
Hyper patriote, Isaac veut que l'Amérique se défende. Dans un ascenseur plus tard, il cassera la gueule à un indélicat qui s'était permis une réflexion déplacée lors de la mort de Roosevelt. Et dès 1942, Isaac va jouer dans les bases et les hôpitaux militaires. Isaac Stern est un Américain.
Complètement au point de vue de la vie, des politiques, les sports, tout ce qui concerne l'Amérique. Je suis Américain 100%.
Le 8 janvier 1943, la famille Stern a déménagé à New York, une base plus raisonnable pour les tournées que San Francisco. Et après 3 ans de représentation dans des salles principalement de deuxième niveau, Hurok a jugé Stern prêt pour ses débuts en récital à Carnegie Hall. Il est accompagné d'Alexander Zakin. Au programme, des sonates de Bach, Brahms et Mozart et des concertos de Szymanowski et Wieniawski. Encore un programme de titans. Isaac veut attirer l'attention et ça marche. Le programme qu'a joué Stern hier soir aurait terrifié des virtuoses endurcis. Mais Stern a survécu au défi qu'il s'était lancé avec une dextérité et des ressources musicales imposantes. La revue du New York Times a salué la maîtrise et la noblesse du style de Stern, soulignant en particulier son chant opulent et rond, le contrôle admirable de son bras d'arc et sa main gauche d'une précision sans faille. concert à Carnegie Hall est un passage obligé pour tout musicien d'où qu'il soit. Mais la partie n'est jamais gagnée. Bravo, Isaac, qui a convaincu le public new-yorkais haut la main. Et cela le marquera à tout jamais. Vous verrez, mais bien plus tard. Il y donnera plus de 200 concerts. Vous voulez que je vous raconte ? Eh bien non, c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouvera samedi prochain pour la suite de notre saga. C'était Allô, Monsieur Isaac Stern, une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil et réalisée par Christine Amado. Mixage, Régis Nicolas. Un grand merci à David Stern et à Nina Zakine, enfants respectifs d'Isaac et d'Alexander, avec qui j'ai passé des heures au téléphone ou par mail pour vous raconter des points de vue inédits sur la jeunesse d'Isaac Stern. Bonne semaine à tous.
À réécouter sur francemusique.fr.